les entrevues. Radio Shalom Bourgogne 97.1 FM.
Chers auditeurs, chères auditrices de Shalom Bourgogne, j'ai le plaisir ce matin d'être avec Madame Nathalie Goulet, sénatrice centriste de l'Orne. Vous avez joué, Madame, un rôle clé dans l'avancée de la lutte contre la criminalité financière, le blanchiment d'argent et la fraude fiscale et sociale en France. Vous avez fait comprendre aux Français et à notre pays les liens, notamment, de cette question avec le terrorisme islamiste et les mafias. Vous avez qualifié la lutte contre la délinquance financière de pierre angulaire de la lutte contre le terrorisme et les mafias, justement. Pourtant, votre rapport de juin 2025 montre que de 38 à 58 milliards sont blanchis en France et que le taux de saisie ne serait que de 2%. Comment en est-on arrivé là ?
Écoutez, d'abord, merci de votre invitation. Si vous le permettez, je voudrais d'abord rendre un hommage attristé et appuyé à mon ami François Patria,
j'en prie,
qui vient de nous quitter et qui nous laisse dans le désarroi et la peine. Voilà.
Alors je crois qu'il a fait l'objet de beaucoup de papiers, beaucoup de salutations dans notre région.
Oui, mais comme ça, je le fais aussi directement. Voilà.
Avec plaisir.
Voilà, et avec émotion. Alors, en ce qui concerne les sujets de criminalité organisée, ce que j'essaye d'expliquer, c'est que la fabrication de l'argent sale est une grosse machine. C'est-à-dire que ce soit le trafic de drogue, le trafic de migrants, le trafic d'œuvres d'art, le blanchiment comme étant maintenant un métier à part entière, ou la contrefaçon aussi, qui fait un chiffre d'affaires absolument remarquable, toute cette fabrication d'argent sale arrive dans une grosse lessiveuse et qu'ensuite elle a plusieurs usages. L'enrichissement personnel d'abord, le réinvestissement dans la criminalité organisée, et le troisième usage, c'est le financement du terrorisme, c'est-à-dire que vous avez une matrice commune de la production d'argent sale. Le financement du terrorisme étant qu'un des usages de cet argent sale, une fois nettoyé. Voilà. Donc, si vous voulez, tout ça se tient.
Alors, Madame Goulet, Madame la sénatrice, depuis 2014, vous et vos collègues, vous avez fait des rapports, vous travaillez, vous alertez. Et comment se fait-il aujourd'hui qu'on en est là, dans notre pays ?
Il y a plusieurs sujets. Il y a d'abord la difficulté de faire comprendre le sujet dans sa globalité. Ça, c'est toujours terriblement difficile. Nous avons fait en quelques années énormément de progrès sur notamment le texte sur les narcotrafics à la suite d'une commission d'enquête du Sénat. Ce texte a donné plus de moyens aux policiers, aux gendarmes, à la sécurité, aux renseignements. Il a fait, si j'ose dire, quelque chose qui ressemble à réveil et sursaut. Mais le narcotrafic n'est qu'un seul élément de la criminalité organisée. Voilà. Ce n'est qu'un élément, il y a tous les autres, et donc il faut absolument pouvoir travailler de façon globale sur l'ensemble de ces sujets, et ça, malheureusement, on n'y arrive pas complètement.
Alors peut-être même nous dire quelques mots sur les méthodes du blanchiment et sa puissance.
Le blanchiment, c'est mille et un petits métiers, et c'est aussi des gens qui blanchissent comme étant un métier distinct. C'est-à-dire qu'il y a maintenant des blanchisseurs, parce que jusque-là, le blanchir de l'argent était une activité annexe. Maintenant, il y a des blanchisseurs. Alors, c'est extrêmement créatif, c'est extrêmement varié. Ça passe par un bureau de tabac où il y a des jeux à gratter. Vous y allez, vous gagnez 100 euros. Et puis vous avez quelqu'un dans le café qui va vous racheter votre ticket avec des espèces à 110 euros. Vous ne voyez pas le mal, vous gagnez 10 euros. Ça ne change rien pour vos courses, mais la personne a déjà blanchi 100 euros. Donc ça, multiplié par le nombre d'établissements, multiplié par le nombre de tickets, multiplié, ça commence à faire beaucoup d'argent. Et puis vous avez toutes les méthodes classiques de blanchiment, c'est-à-dire de circulation d'argent sale qui va rentrer dans l'économie réelle, soit par le paiement de salaire partiellement en cash, soit par de la corruption, par la circulation d'espèces, etc., qui est un moyen évidemment tout à fait classique de blanchir de l'argent.
Alors, quels sont pour vous qui avez fait avancer avec vos collègues et même créer des institutions comme le PNACO, enfin, contribuer à la création du PNACO?
Ah ben ça, c'est le texte, ça, c'est le texte sur, ça, c'est le texte sur la. C'est la loi Narco qui a créé le PNACO.
D'accord.
Et au départ, ça devait être. Vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure, au départ, ça devait être un parquet anti-narco. Et à l'arrivée, c'est un parquet criminalité organisée.
C'est ça.
Parce que, comme je vous l'ai dit, la criminalité organisée est polymorphe et le narco n'est qu'un élément.
Alors, il est clair que les gens qui observent un peu ce qui se passe considèrent que c'est un progrès important, mais que, et c'est
oui.
peut-être en lien avec les blocages, les moyens que donne l'État actuellement à ces outils semblent quand même dérisoires, je ne sais pas, mais limités.
Ah ben, de toute façon, le PNACO a été mis en place cette année. Ça va donc nécessiter des moyens humains et financiers. Ça va aussi nécessiter du tuilage avec le parquet national financier. Les deux institutions doivent travailler ensemble. Évidemment, tout ça va demander un peu de mise en place, évidemment, et un peu de moyens. Mais les magistrats qui sont dans ces institutions sont des gens hyper qualifiés. Moi, je n'ai pas de doute sur la question. Ce qui se passe, c'est les éléments de la police et de la justice à l'étage d'en dessous. C'est-à-dire que les forces de police et de gendarmerie et les services de renseignement sont à l'os. Mmh. Et la justice est à l'os aussi. Donc, si vous voulez attraper... Quand vous avez un douanier et qui doit chercher des réseaux de trafic de migrants, 7 milliards de blanchiment par an, de la contrefaçon, 5 à 6 milliards par an, ou du trafic de narcotrafic à plus de 10 milliards par an, il ne peut pas être partout en même temps. Vous comprenez ?
Mmh.
Donc, forcément, il va aller vers les narcos et il va laisser filer les autres. Mais ce n'est pas de sa faute, c'est simplement parce qu'il ne peut pas être partout en même temps. Et donc, on a évidemment un problème au niveau matériel et humain sur les forces de police, de gendarmerie et les institutions judiciaires qui sont à l'os. Qui sont à l'os. Malgré les augmentations de budget, elles sont quand même à l'os.
Est-ce qu'on est très différent des autres pays d'Europe où on est vraiment en panne, en retard, ou est-ce qu'il y a... On est quand même...
on est en dessous en ce qui concerne la justice et oui on est un peu en dessous des statistiques européennes. Je les ai pas exactement, mais oui.
Oui, on est plutôt en queue de peloton, en clair.
Parce de toute façon, qu'on soit en queue ou en tête, ça ne nous suffit pas. Donc, si vous voulez, la comparaison n'a pas beaucoup d'intérêt.
D'accord.
Ce qui est intéressant, c'est ce qui se passe. Enfin, vous voyez, la comparaison, c'est toujours bien. Mais de toute façon, quelle que soit la solution, et quelle que soit notre position dans le peloton européen, de toute façon, pour nous, c'est insuffisant. Donc, voilà.
Donc, on n'est pas au bout de nos peines, si je comprends bien. Mais dans votre travail et vos écrits... Il y a quelque chose de particulier, c'est que dès, je crois, votre travail dans la commission de 2014, vous avez pointé, je crois que vous êtes une des personnes qui a vraiment fait avancer ce dossier, le financement du terrorisme en lien avec le blanchiment, ce qui n'était pas évident,
bien
pas
sûr,
connu.
Oui, c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Ça, c'est plutôt très original. Enfin, ce n'est pas très original pour les gens qui s'y intéressent. Mais le fait de comprendre que le financement du terrorisme n'est qu'une branche d'utilisation des autres sujets de blanchiment, ça c'était dans sa diversité aussi, bien sûr.
Alors je sais que c'est un sujet que vous connaissez bien, je ne peux pas m'empêcher de vous poser une question. On est en 2026, le travail a commencé en 2014.
Oui.
Pour vous, où en est l'état de la menace terroriste en lien avec cette problématique du blanchiment ? Et les outils qu'on a mis en place pour essayer de limiter la casse dans notre pays.
Très honnêtement, je pense qu'il y a énormément d'avancées, et je dirais que c'est heureux. Moi, je fais une confiance absolue à nos services, aux forces de police, de gendarmerie, aux sapeurs-pompiers, aux services de renseignement. Moi, je leur fais une confiance absolue. et aux services de renseignement qui permettent chaque jour d'éviter des attentats. Parce que, évidemment, chaque jour, on a des attentats déjoués. Donc, si vous voulez, on n'en parle pas, on ne parle pas des trains qui arrivent à l'heure, mais il faut savoir que ça existe. Et que c'est quand même phénoménal et très important et qu'il faut vraiment remercier tous ces gens qui sont en charge de notre sécurité au quotidien. Donc il y a des progrès, c'est évident. Mais pendant que nous on progresse, les criminels progressent aussi. Et puis il y a d'autres formes de invasives, si vous voulez, de nos sociétés sur lesquelles on met du temps à réagir.
Alors aujourd'hui, donc, on est finalement, il y a des outils qui se mettent en place, il y a des compétences qui se développent, mais qu'est-ce que vous préconisez comme solution? Enfin, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant si on veut avancer et prendre la dimension, prendre le problème à bras-le-corps?
Alors, il faut une meilleure coordination de l'ensemble. Bon, d'abord, il faut absolument mettre les outils de poursuite à plat. Et réorganiser un peu tout ça, c'est beaucoup mieux, ça a progressé en termes d'échange de données, de coopération entre les services, mais c'est quelque chose qu'on entend depuis longtemps, qu'on voit dans tous les feuilletons et la télé, ça c'est un sujet. Il faut des moyens, incontestablement, il faut des moyens en hommes et en matériel, incontestablement, il faut des moyens, et puis il faut aussi des formations. Parce que dans tous les outils de blanchiment multiples et variés, dans les nouveaux outils de criminalité organisée, on a par exemple l'usage des cryptoactifs pour lequel il faut de la formation et des logiciels qui permettent de suivre les cryptoactifs. Parce que contrairement à ce qu'on pense, c'est un outil, mais ce n'est pas un outil complètement transparent. En réalité, on peut très bien suivre les transactions sur les cryptoactifs et les gens qui volent les cryptos et qui font de la criminalité organisée autour des cryptos en pensant qu'ils ne peuvent pas être trouvés se trompent. Il faut savoir que les cryptos, ça se déchiffre et ça se suit hein, grâce à la blockchain. Bon, mais là, il faut des outils, des moyens, de la formation. Ça, c'est très, très important.
Donc, c'est-à-dire des enquêteurs et de la formation, donc plus d'enquêteurs.
Plus d'enquêteurs, plus de moyens pour la justice, plus de moyens pour la formation, plus de logiciels, plus de coopération européenne. Oui, ben ça on le dit depuis longtemps, mais là c'est vraiment très très important parce que les montants sont importants. C'est 50 milliards de blanchiment et on recouvre que 2%. Alors on a voté plusieurs textes pour améliorer les outils de l'AGRASC, qui est l'agence de recouvrement des avoirs criminels qui fonctionne formidablement bien. Formidablement bien, il faut se féliciter d'avoir un outil comme ça en France, mais on peut faire beaucoup mieux en leur donnant encore plus de moyens.
Je rappelle, donc, je suis avec Mme Nathalie Goulet, sénatrice centriste de l'Orne, qui, autour du sujet de la criminalité financière, en particulier du blanchiment d'argent. Il y a un point que j'ai trouvé intéressant dans vos propositions et dans votre démarche, c'est la question juridique autour de la question de systématiser la présomption de blanchiment. Peut-être expliquer à nos auditeurs auditrices ce que c'est, parce que ça me paraît fondamental.
Alors ça, c'est une très, très grosse avancée du droit français qui ne se pratique pas à l'extérieur, enfin pas dans beaucoup de pays européens, très peu. C'est qu'en réalité, pour ce qui concerne les poursuites, lorsque manifestement, les moyens de la personne interpellée sont disproportionnés par rapport à son train de vie, on considère qu'il y a une présomption
de blanchiment, en quelque sorte.
C'est-à-dire que la charge de la preuve est inversée, c'est-à-dire que c'est à la personne poursuivie de rapporter la preuve que ses moyens sont légaux, et non pas à la police ou à la justice, dans le cadre d'une instruction ou d'une enquête, d'aller chercher les preuves. C'est-à-dire qu'on a inversé la charge de la preuve. Et ça, c'est infiniment plus simple pour les personnes en charge des poursuites, puisque la charge de la preuve ne leur incombe pas et qu'en réalité, c'est à la personne poursuivie de prouver que les moyens dont elle dispose sont légaux.
D'accord, elle doit justifier l'origine de ses biens. Si elle a une villa
Exactement.
À 2 millions d'euros...
Et s'il y a une disproportion massive dans ces cas-là, il y a évidemment une présomption de blanchiment qui s'applique. Et...
Ce qui veut dire que juridiquement, c'est acté. C'est-à-dire qu'en France, c'est...
Ah oui, ça figure dans la loi. Oui, bon, ça fait 10 ans.
C'est très important.
Très important.
C'est pas connu du tout, et je pense que c'est un point essentiel. Autrement, au niveau des peines, au niveau des sanctions, est-ce que vous trouvez on est à la hauteur? Est-ce que si on augmentait les peines, les sanctions, ça aurait un effet sur cette population.
Est-ce qu'il faut déjà, est-ce qu'il faut, oui, mais enfin, l'augmentation des peines, si vous ne pouvez pas les exécuter, c'est cautère sur jambes de bois. Les amis, il faut des sanctions, mais il faut pouvoir les appliquer. Voilà.
Vous aviez fait 50 recommandations, vous vous souvenez, dans votre rapport.
Oui.
Et on en est où ? J'insiste sur ce... Il faut vous rappeler quand même qu'il y a un travail énorme qui a été fait par vous et vos pairs.
On s'en est occupé, on a voté plusieurs textes sur l'augmentation des pouvoirs de la grâce, que dans le texte Riposte, qu'a fait passer le ministre Darmanin, il y a aussi des dispositions qui étaient dans le texte de la commission d'enquête. Ça avance doucement, et puis on a voté un texte sur les entreprises éphémères, c'est-à-dire ces entreprises le Kleenex, qui se créent uniquement pour frauder l'URSSAF, frauder le fisc, frauder les commerçants, frauder les artisans. Mais il a été voté au Sénat le 5 novembre, et il n'est pas encore passé à l'Assemblée nationale.
D'accord. Donc les choses progressent malgré tout. Vous avez parlé tout à l'heure de l'international, la question de la coopération entre les pays et les instances internationales. Qu'est-ce qu'il faut faire pour améliorer et avancer ?
Mais c'est pareil. Je vais donner un petit exemple. Vous savez qu'il existe en France un fichier des comptes bancaires, ça s'appelle le FICOBA. C'est-à-dire que tous vos comptes bancaires, tous les comptes bancaires des Français, sont dans un fichier national qui s'appelle le fichier FICOBA. Et donc, quand on recherche vos comptes bancaires, quand le fisc recherche ce que vous avez comme compte bancaire, etc., il interroge le FICOBA où figure l'ensemble de vos comptes bancaires. La moitié des pays européens n'ont pas ce type de fichier. Et donc, quand vous poursuivez des criminels, c'est extrêmement compliqué d'aller les chercher et subsidiairement de récupérer les fonds qui ont été détournés, volés, pillés, ce que vous voulez, parce qu'il n'y a pas cet outil-là. Voilà. Alors, l'Union européenne a prévu pas de FICOBA européen, mais que chaque pays devrait avoir un point de contact pour les poursuites. Vous pensez comme ça va être simple, et c'est en 2029, donc c'est pas tout de suite. Donc, si vous voulez, les criminels ont quand même de beaux jours devant eux avec de l'argent qui peut filer n'importe où, parce que de toute façon, on n'arrivera pas à le récupérer. Vous voyez, parce qu'il y a un outil simple. Vous pensez bien que si vous devez de l'argent à quelqu'un et que l'huissier va interroger le FICOBA, il pourra saisir vos comptes bancaires. Si vous avez un criminel qui se balade dans un pays européen et qu'on essaye de suivre ses comptes bancaires, il n'y a pas de fichier commun des fonds bancaires. Donc, si vous voulez, les instructions prennent du temps, il faut de la coopération internationale, etc. C'est très compliqué et très long.
Il y a un autre point.
Et l'argent est dépensé pendant ce temps-là.
Il y a un autre point, c'est la question des paradis fiscaux. On en est où ? Est-ce que vraiment...
Nulle part.
Au niveau des sanctions, ça avance ?
Nulle part. Nulle part. Nulle part.
Alors peut-être pas. C'est compliqué.
On avait voté il y a 2 ans quelques pauvres petites dispositions qui ont sauté dans le cadre de... Il ne vous a pas échappé qu'on votait le budget dans des conditions lamentables depuis 2 ans. Là, ça n'avance pas du tout. Et c'est intéressant que vous parliez de ça, parce que vos auditeurs doivent bien comprendre que la fraude et la criminalité organisée utilisent les mêmes circuits que la délinquance financière, c'est-à-dire les paradis fiscaux, les ports francs et tout un tas d'outils qui servent à la grande délinquance financière en col blanc, mais qui sert aussi à celle qui a les mains sales. Enfin, les deux ont les mains sales, d'ailleurs.
Bien, bon, c'est...
À court ou à long terme, elles sont toutes les deux. De toute façon, c'est l'économie réelle qui en souffre. Vous savez que le blanchiment d'argent... c'est 2 à 5 % de la production mondiale, c'est-à-dire du GDP, c'est entre 2 000 et 5 000 milliards de dollars, le blanchiment. Et le recouvrement, le taux de recouvrement mondial, c'est entre 1 et 2 %.
D'accord.
C'est-à-dire que sur tout cet argent, il est réintégré dans l'économie réelle, dans la criminalité, dans le financement du terrorisme, mais on n'est pas très bon. Parce que quel que soit le montant recouvré, c'est quand même que 1 à 2%. Donc de toute façon, il y en a 98 qui passent à l'as.
Donc sur les questions de transactions, de suspicion dans les transactions, pareil, c'est compliqué. Et en France, et entre les pays, enfin, c'est la même problématique.
Bah oui. Alors, il y a beaucoup plus de coopération internationale. Par exemple, on a beaucoup, beaucoup avancé sur les Émirats, dont il ne vous a pas échappé que c'était un pays qui avait une forte faculté contributive, mais aussi une forte population de criminels qui étaient planqués là-bas. Le travail des forces de police, le travail de coopération, aussi le name and shame, c'est-à-dire de les avoir mis sur une liste grise des pays non coopératifs. Alors ils ont fait beaucoup d'efforts et l'estocade a été portée par le ministre Darmanin qui a fait énormément de déplacements là-bas. Donc ce qui devait arriver a fini par arriver. Ils ont renvoyé, je crois, 34 ou 35 criminels, ils les ont extradés vers la France. Ils ont saisi des biens, ce qu'ils n'avaient jamais fait avant. Donc ça, il y a des choses qui avancent.
Là, vous parlez
Donc
des
on peut plus
États.
être complètement tranquille, on peut plus être complètement tranquille quand on est trafiquant de drogue à Dubaï. Il y a encore beaucoup de choses qui se font, mais l'étau se resserre. Et ça, c'est un travail de coopération de longue haleine, notamment avec la France, mais pas seulement. Ils ont extradé un Irlandais gros criminel il y a quelques semaines. Enfin, ça progresse et ça, c'est quand même une éclaircie dans la nuit.
C'est important pour les citoyens que nous sommes
Oui,
de le savoir.
oui,
Vous avez parlé
oui.
de prévention, de sensibilisation, de formation tout à l'heure
Oui.
pour développer la lutte contre l'argent sale. Qu'est-ce qu'on peut faire? Comment pour avancer? Peut-être préciser un petit peu les choses, parce que c'est important.
Alors, il y a des choses très très banales auxquelles les gens pensent pas du tout. Je pense à la contrefaçon, parce que vous pensez qu'il s'agit de sacs de marque ou de vêtements de marque, etc. Mais si vous achetez une fausse chemise Lacoste sur un marché, elle durera un peu moins longtemps, vous vous faites plaisir, bon, c'est pas très grave, vous pensez que c'est pas très grave. Sauf que, en réalité, la contrefaçon, ça alimente des réseaux entiers de criminalité organisée. D'abord parce que ça a l'air d'une criminalité sans victime, ce qui n'est pas le cas. Et ensuite, parce que, en général, c'est évidemment payé en espèces. Quand vous allez sur les marchés en Espagne, sur la frontière italienne, à San Remo, Vintimille ou n'importe où, et que vous achetez des faux sacs de marque, des faux vêtements de marque, des faux jogging de marque au Grand Bazar d'Istanbul, tout ça alimente des réseaux entiers, à la fois de criminalité organisée, mais aussi de financement du terrorisme. Donc ça, c'est un acte civique. Faut pas acheter de contrefaçon. Voilà. C'est banal, hein. Parce que dans la contrefaçon, il n'y a pas que les vêtements. Il y a des médicaments. Dans le meilleur cas, c'est un placebo, mais pas toujours. Des crèmes solaires cancérigènes, des fausses Ray-Ban qui brûlent les rétines, des pièces détachées d'automobiles qui sont pas trop aidées, ou des pièces détachées d'avions.
Ah
C'est
oui.
très dangereux, la contrefaçon. Et les produits en ligne, n'en parlons pas. Donc, pas de contrefaçon.
Ah, vous avez évoqué aussi des institutions et des métiers, les banques, les notaires, enfin, etc. J'imagine les avocats, toutes ces professions réglementées. Qu'est-ce qu'il en est de leur formation, de leur connaissance et de
Ah ben
l'avancée?
là, on a augmenté tous les seuils de formation, toutes les obligations.
D'accord. Ça bouge.
Ils sont, nous, non, mais déjà depuis longtemps, ils sont assujettis au service de déclaration de soupçons de renseignements financiers qui s'appelle TRACFIN, qui est un service remarquable qu'on
D'accord.
a en France. Et donc, quand il y a des opérations qui semblent atypiques, tous ces organismes réglementés sont assujettis à TRACFIN. Il y en a de plus en plus, et c'est très bien comme ça. On a désormais aussi les loueurs de voitures de luxe, de bateaux, yachts et autres. On a tout ce qui est agent immobilier. On a des plateformes de VTC qui est encore pas complètement achevée, mais qui avance parce que là, il y a énormément de blanchiment aussi. Voilà.
La corruption, donc on entend ici ou là dire, alors parfois c'est du one shot médiatique, mais est-ce que dans notre pays vous pensez que la corruption gagne? On parle de certains pays qui seraient, pas des narco-États, mais enfin qui seraient beaucoup plus en difficulté que nous, plus au nord dans l'Europe. Est-ce qu'en France vous pensez que la corruption est quelque chose de très fort, où on est quand même, on n'est pas encore complètement
Il y
coincé
en
ou
a un
quelque
peu à
chose
tous
comme ça?
les étages, mais c'est pas comme ça peut être lié, par exemple, aux agents des ports, des aéroports. C'est ou de la corruption parce que les gens ont besoin d'argent et cèdent, ou de la corruption via de la menace. Ça existe dans certains territoires de la France où la pression de la mafia est un peu plus, ou des mafias, ou des criminels est un peu plus forte et pèse sur un certain nombre de gens et leurs familles. Voilà. Et après, il y a les marchés publics, notamment les secteurs des ordures ménagères qui drainent pas mal d'argent sale en dehors des poubelles. Oui, il y en a. Oui, il y en a. Il y a un plan qui a été édicté, un rapport qui est sorti sur un plan triennale, je crois, de lutte contre la corruption.
Je rappelle aux auditrices, auditeurs que nous sommes avec Madame Nathalie Goulet, donc sénatrice de centriste de l'Orne, et nous évoquons aujourd'hui les questions de criminalité financière, de blanchiment d'argent et de fraude fiscale. Vous avez joué un rôle clé avec vos collègues au Sénat pour alerter, faire avancer, proposer des lois. Nous allons terminer ce passionnant entretien.
Déjà ?
Mais en quelques secondes, peut-être nous dire si demain il fallait prendre des mesures radicales, rapides, en tout cas importantes, quelles seraient pour vous, quelles décisions la France devrait-elle prendre en urgence pour lutter contre le blanchiment d'argent, dont je rappelle que vous avez démontré qu'il avait beaucoup de liens avec le terrorisme. Qu'allez-vous proposer au prochain président de la République ou à la prochaine présidente de la République ?
Si je devais proposer une mesure... c'est de revoir complètement l'organisation des comités qui s'occupent de coordination dans la lutte. C'est évidemment des mesures de recrutement humain et des mesures financières. Ça, c'est évident qu'il faut de l'argent pour nos services qui sont, comme je vous l'ai dit, 18 fois à l'os. Et le reste, il faut vraiment en faire une priorité. La lutte contre le blanchiment doit être une priorité. Vous avez à peu près 100 milliards de fraude fiscale, vous avez 40 milliards de fraude sociale, vous avez 50 milliards de blanchiment. Si vous mettez tout ça bout à bout, ça vous fait presque 200 milliards et on aura fini avec notre déficit budgétaire. Donc si vous voulez, l'argent qui est dehors, il n'est par définition pas dedans. Donc si vous voulez, c'est un impératif financier, c'est un impératif moral, c'est un impératif de sécurité. Et d'ailleurs, puisque vous me tendez la perche, le 1er octobre, j'ai un bouquin qui sort sur la criminalité organisée qui s'appelle La gangrène.
Bien, donc
voilà, pour vous dire dans quel état... Ah non, mais ça n'a rien. C'est pas du tout le petit dictionnaire du financement du terrorisme. Là, c'est un livre, je crois qu'il va un peu marquer. Et la gangrène, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Et donc, il y a tout un tas d'histoires autour de cette criminalité organisée avec un trafiquant de drogue, un trafiquant de contrefaçon, un trafiquant d'œuvres d'art, les entreprises éphémères, les hommes de paille, les femmes de paille, enfin tous les petits métiers de la criminalité organisée. Ça sort chez Robert Laffont le 1er octobre. Il n'y a plus qu'un mois à attendre. Vous savez, comme quand vous êtes enceinte jusqu'à l'accouchement, c'est long le dernier mois.
Absolument. En tout cas, c'est avec plaisir que nous découvrirons votre livre et que nous permettrons...
Il est déjà sur les plateformes. Hein, si les
d'accord,
gens
mais de vous recontacter pour une interview et peut-être qu'on aura le plaisir de vous revoir à Dijon pour venir parler de cette thématique, puisque... La sénatrice que vous êtes, qui a fait un gros travail avec vos collègues, vous êtes un peu une lanceuse d'alerte, en quelque sorte, je peux me permettre, en donnant tout son poids à au sens enfin, de ce mot. Voilà. Madame Goulet, à très bientôt.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup et à très bientôt pour une prochaine rencontre autour de vos prochains livres.
Merci à vos auditeurs de leur patience.
Au revoir.
Les entrevues. Radio Shalom Bourgogne 97.1 FM.